sur mon petit chantier, j'écoute France Inter. Il y a des émissions que j'écoute attentivement, d'autres que je boycotte, et puis il y en a d'autres où je fais moins attention. Mais entre deux coups de perceuse, j'ai pu entendre ceci hier matin, et je trouvais ça assez rigolo. Il y avait un homme qui était interrogé dans la rue, un Britannique a priori, et on lui posait cette question. Pensez-vous que la langue de bois soit une spécificité des politiciens français ? Non, non, pas du tout, c'est universel. La langue de bois, c'est l'espéranto des politiciens. Pas mal, non ? Voilà, je trouvais ça assez amusant, l'espéranto des politiciens. Ben voilà, il fallait y penser. Allez, bonne journée, salut à tous.
Pendant l'émission d'aujourd'hui, a été diffusée la chanson d'une femme qui a été illustrée pour justement, qui a été expliquée comme étant révolutionnaire en Afghanistan, parce que les femmes n'y chantent pas. Moi, je pense reconnaître une chanteuse de Bollywood, soit Lata Mangeshkar, soit sa sœur, et je pense que cette chanson est en hindi, ce qui signifierait que c'est une chanson extraite d'un film indien. Donc, à ce titre, encore beaucoup plus révolutionnaire, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cette information t'intéresse. Alors, peut-être tu en feras quelque chose. Au revoir.
Oui, bonjour l'équipe. Antoine, auditeur majeur et grave, à côté de Nîmes. Je constate qu'à la suite d'un appel d'une aigre, douce, maussade et généreuse personne, le qualificatif d'origine africaine a collé à la jeune femme brûlée dans un bus à Marseille, n'a plus été repris dans les bulletins d'actualité suivants. Alors, adroitement, méticuleusement et avec gamberge, salut l'équipe !
Oui, bonjour Daniel, Jean-Damien de Marseille. Eh bien écoute, je t'appelle parce que la logorée capitaliste m'a rattrapé et on m'a coupé en fait le gaz, l'électricité pas plus tard que hier. Et j'avais entendu donc une émission de ta part là qui parlait des Robins des Bois. Et je remets à avoir des contacts de cet organisme pour pouvoir les contacter. Et d'autre part, je suis allé donc à l'agence EDF qui m'ont dit qu'ils me remettraient pas le courant avant 10 jours. 10 jours sans courant, ça fait quand même pas mal de bougies à consommer et à acheter, ma foi. Donc voilà, donc d'où mon mécontentement actuel du moment présent. Sans compter qu'ils te parlent comme des chiens quand tu vas un peu exprimer tes souffrances. Donc, à l'agence EDF. Voilà, bah, je soutiens ton émission. Merci bien et à bientôt. Au revoir.
Oui, bonjour, Cédric de Rennes. J'écoute l'émission actuellement, là. Et puis Guy est en train de se faire couper la barbe pour la deuxième fois de l'émission. Et il décrit le salon. Il dit qu'il y a une photo de la Mecque, de Massoud, et une représentation de Mahomet. Ah, moi, il me semblait que les musulmans n'avaient pas le droit de le représenter. C'est ce qu'on disait au moment des caricatures. C'est bizarre. Bon, au revoir.
Mais oui, c'est pas sûr hein, que ce soit Mahomet qu'il ait eu devant les yeux notre rasé Guive. Mais par contre, ça peut être des compagnons du prophète, ça peut être des figures de la grande légende et des grands mythes islamique, c'est très possible. On sait qu'il y a un droit à la représentation humaine, au moins chez les chiites. Et puis, faut-il rappeler que l'islam, comme toutes les autres religions, est très très diversifié, connaît des courants très différents à travers le monde, à travers l'histoire. En tout cas, je vois que on tend l'oreille quand il s'agit d'islam et d'Afghanistan, ce qui nous fait bien plaisir, puisque aujourd'hui on continue donc ce retour en Afghanistan 5 ans après 2001-2006. Et là, aujourd'hui, il va nous falloir une cuillère très très longue, très très longue, puisque nous allons non pas déjeuner, mais rencontrer le diable, c'est-à-dire un taliban, et pas n'importe lequel, puisqu'il fut ce taliban-là, Abdul Salam Zaef, l'ambassadeur des talibans au Pakistan. Aujourd'hui, après un petit passage de près de 4 années, près de 4 années à Guantanamo. Il a été libéré et il vit en résidence surveillée à Kaboul où nous l'avons rencontré. Et donc nous allons passer cette heure du 1er novembre avec cet homme-là. Et pas seulement, parce qu'on aura des analyses et des éclairages sur l'histoire de ces talibans, sur donc l'histoire récente de l'Afghanistan, d'autant plus intéressante et préoccupante que les talibans sont de retour aujourd'hui en Afghanistan. Et comme on aime à le répéter, ils ne sont pas contents.
De Pujadas, la riflette.
Une image, celle de Donald Rumsfeld, contraint de se justifier, de rassurer. Non, l'Afghanistan n'est pas un bourbier.
On s'en lasse pas.
Bon, mais qu'est-ce qui se passe si on arrive en jean et en t-shirt à Kandahar?
Peut-être on prend un petit coup de balle dans notre corps et c'est tout.
C'est tout. Juste un petit coup de balle dans ton corps.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis avec Guy Vanctil. Un retour en Afghanistan, une heure avec le diable.
Flight number 2, arriving from...
L'avion qui passe là, la circulation, c'est la pagaille. Donc, c'est le grand bazar ici.
Le grand bazar de Kaboul, c'est l'avenue qui va de la rivière de Kaboul jusqu'au stade. Et ce quartier a beaucoup souffert de cette guerre et on voit toujours les ruines là, à droite et à gauche de cette avenue. Et ici, il y a eu des combats terribles entre les factions, différentes factions de Mujahideen.
Entre 92 et 96,
92.
Avant l'arrivée des talibans, qui ont après été perçus comme les ceux qui ont apporté le calme.
Ouais. Exactement, oui. Les gens les attendaient à bras ouverts parce que c'est eux qui ont amené, qui ont ramené la paix à Kaboul, enfin la paix, la sécurité et le calme.
C'est vrai que c'est que des maisons basses et des rares maisons hautes qu'on voit comme celle-là là, qui est à gauche. C'est plus qu'une façade en fait. Une façade où on voit des impacts, des trous complètement usés qui tient à peine debout, mais derrière il n'y a plus rien.
Mais tu vois, si tu as voyagé dans les ex-pays de l'Est, tu as plein de choses que tu retrouves. Toi, dans la façon d'aménager les places, dans certains poteaux, qui est un truc soviétique, la tribune, etc.
Il y a plein de choses.
Ça aussi, ça doit dater de l'époque soviétique, non?
Oui.
Voilà.
Ça, c'est le ministère de télécommunications.
Voilà. Ça, c'est l'architecture soviétique.
Et là, il y a des demoiselles qui passent sans burqa du tout.
Oui, tout
très jolies, avec juste un petit tissu sur la tête.
Ça, c'est une rareté. Où t'as vu ça?
Trois demoiselles.
Où t'as vu une chose pareille? Ah oui, il y a trois filles.
Très jolies.
Oh là là. Une, elle cache sa bouche, mais enfin, elle montre quand même ses yeux et son nez.
Elle cache sa bouche parce qu'il y a des vents de poussière, surtout, c'est ça.
Un exploit d'avoir repéré des femmes dans les rues de Kaboul et à plus forte raison des femmes qui montrent leur visage. Le pays se referme peu à peu, y compris la ville de Kaboul après tous les espoirs qui étaient nés, toutes les attentes. On entre indéniablement dans une période d'illusions perdues. Voilà, une image de Kaboul qui donne d'elle-même, cette ville donne d'elle-même toutes les traces de ses souffrances, de ses plaies, de son histoire qu'on peut lire assez facilement en se baladant dans cette ville où on n'a pas trop envie de s'y balader en vérité, mais enfin en s'y trouvant on voit effectivement des traces de l'histoire récente de la ville et donc donc du pays. Et aujourd'hui, on voit l'histoire très récente depuis 2001 à travers des constructions très clinquantes, très flambantes, les unes pour des... C'est très curieux, on appelle ça des wedding halls. C'est des petits immeubles, quand même de 3, 4, 5 étages, très très clinquants, en verre, vous savez, très très clinquants comme ça, et qui servent uniquement pour les mariages. Ils sont prévus pour de très grands mariages où on fait venir des invités de partout. Et puis d'autres constructions extrêmement clinquantes, des sortes de gâteaux avec beaucoup de chantilly colorié dessus, qui sont les demeures des nouveaux riches, des enrichis de toutes sortes, et essentiellement évidemment dans les trafics, le narcotrafic. Mais on voit aussi des traces de la période 92-96, où la ville était déchirée entre des factions rivales de Moudjahidine qui se battaient pour la conquête du pouvoir. Et comme on vient de l'évoquer, eh bien en 96, les talibans arrivent au pouvoir. Alors dire taliban aujourd'hui, c'est dire diable, horreur, tyrannie, obscurantisme, etc. Sauf que, eh bien, à l'époque, c'était pas ce qu'on disait dans le monde. On va le voir à travers notre reportage d'aujourd'hui. Il faudra se souvenir un peu de ce qu'ils apportaient, la façon dont on les voyait à leur arrivée en 96. Une image très différente de celle qui a été donnée d'eux en 2001. Et puis, ça nous intéresse d'autant plus encore. Or, une fois, je le disais en commençant, que ces talibans sont de retour, beaucoup plus puissants probablement qu'ils ne l'étaient en 2001. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, une longue, 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 longue cuillère pour manger avec le diable.
Dans mon village, par exemple, il y a quelque temps, il y avait un mariage. On a amené des chanteurs, des danseuses, et moi, je suis pas allé pour ne pas me pervertir. Et j'ai résisté à ça.
Ils sont afghans, mais viennent des écoles coraniques du Pakistan voisin. Un Coran dans une main, une Kalachnikov dans l'autre, ils se sont ouverts la route de Kaboul en quelques mois et contrôlent aujourd'hui près de la moitié du territoire. Lorsque les talibans, littéralement les étudiants religieux, s'emparent d'une zone, le scénario est à chaque fois le même. Ils mettent fin au petit trafic des milices armées corrompues, ils brûlent les champs de pavots et rétablissent l'ordre au nom d'Allah.
Février 95.
Ce qui est plutôt fascinant dans ce qui s'est passé depuis octobre, c'est qu'ils ont pris tout le sud de l'Afghanistan pratiquement sans combat. Et là, on voit qu'il y avait une lassitude de la population qui a fait que les talibans ont été très bien accueillis.
Pour comprendre l'émergence des talibans, il faut remonter à 89. L'armée rouge se retire alors d'Afghanistan et laisse le régime pro-soviétique seul face aux Moudjahidines. Très vite, deux chefs de guerre émergent, Massoud, venu du Panjshir, et Ekmatyar, un islamiste armé et financé par le Pakistan et les États-Unis. Kaboul devient le théâtre d'une guerre sans merci entre les deux factions. L'État se désintègre, les réfugiés s'entassent dans des camps de fortune. Fin 94, les alliés d'Ekmatyar changent de politique. Les États-Unis sont persuadés que le fondamentaliste entretient des réseaux terroristes prêts à frapper en Occident. Avec le Pakistan, ils décident de s'en débarrasser et arment les talibans.
C'est un mouvement fondamentaliste, mais pas forcément anti-occidental. Je crois qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Ils veulent rétablir un État central à Kaboul, un État qui donc soit fondé sur la charia, mais sans que le projet politique soit très précis.
Avec matière chassée, les talibans font face désormais aux troupes du commandant Massoud. Et Kaboul est leur prochain objectif.
Abdul Salam Zaïf, qui est devant nous, est l'ancien ambassadeur taliban.
Voilà, on est avec Haji Abdul Salam Zaïf, avec qui on va passer 7 heures. Mais je voudrais revenir un petit peu sur les archives qu'on vient d'entendre, qui datent du 22 février 1995. Le journaliste est Thierry Thuillier, qui résumait un peu le moment là, où les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan, et qui fait allusion, bien sûr, au chaos qui a précédé entre 92 et 96. 92, c'est la chute du pouvoir communiste en Afghanistan, à Kaboul, qui avait survécu au départ des soviétiques en 89. Pendant 3 années, le gouvernement est resté un gouvernement communiste, avec ses affrontements entre les différentes factions de Moudjahidine qui ont mis la ville à feu et à sang, faisant des dizaines de milliers de victimes, et dans ces dizaines de milliers de victimes, Ahmad Shah Massoud a de lourdes responsabilités. Donc voilà dans quelles circonstances, c'est dans ce chaos que les talibans en 96 seront accueillis avec beaucoup de soutien de la population. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, même si les choses ont évolué, c'est pas les mêmes donnes, mais les talibans d'aujourd'hui, ceux qui contrôlent tout le sud du pays, sont soutenus par la population, même si évidemment les forces gouvernementales et les forces occidentales qui soutiennent le gouvernement actuel disent le contraire. Mais il y a indéniablement un soutien de la population. Alors, la grande affaire, évidemment, de 2001, pourquoi les bombardements sur l'Afghanistan, pourquoi cette opération Enduring Freedom, la raison était que Washington, le président W. Bush, voulait que le pouvoir afghan, c'est-à-dire les talibans à l'époque, livre, extrade Ben Laden, supposé être l'instigateur, l'organisateur des attentats du 11 septembre. Or, à ces demandes pressantes des Américains, les talibans, le pouvoir taliban, disent non, on veut bien vous l'extrader, mais à condition que vous donniez des preuves de sa responsabilité dans l'affaire. Le président Bush réplique qu'il n'a pas de preuves à donner, que sa demande n'est pas négociable. Et donc, on connaît la suite. Or, Arundhati Roy, vous connaissez cette écrivaine indienne, dit c'est sans doute la demande du gouvernement américain, et ça peut tout à fait se comprendre. Mais alors, pourquoi est-ce que l'Inde, au même moment, n'a pas demandé aux États-Unis l'extradition de Warren Anderson? Warren Anderson. Qui est Warren Anderson? Eh bien, si vous vous souvenez du reportage que nous avions fait à Bhopal, en Inde, en 1984, Union Carbide, vous vous souvenez, Union Carbide, Bhopal, eh bien, avait fait l'explosion de cette usine, avait fait 16 000 morts. Or, le patron de Union Carbide, c'était Warren Anderson, et ce Warren Anderson, qui vit ses vieux jours, la fin de sa vie quelque part, dans un coin tranquille des États-Unis, n'a jamais été extradé, en dépit des demandes du gouvernement indien. Jamais les États-Unis n'ont accepté l'extradition de cet homme d'affaires
qui est impliqué très, de façon très claire dans l'affaire de Bhopal. Voilà comment on peut dire qu'on commence avec deux poids, deux mesures et comment le terme de terroriste peut être parfois, peut se retourner contre ceux qui le prononcent. Hadji Abdul Salam Zaef est devant nous. Alors, racontez-nous la naissance du mouvement taliban.
Bismillahirrahmanirrahim.
Au nom de Dieu, le miséricordieux.
Well, I don't know the exact date when it started. I think 1994. It's starting from Kandahar and Purpanjwai in Pashmul district.
Il n'y a pas de date exacte, j'ai pas de date exacte, mais je sais que ça tournait vers, commencé vers 1994, à côté de Kandahar, du côté de Panjwai, il y a le district de Pashmul.
And this was the first movement starting from inside of Afghanistan.
C'est le premier mouvement qui est vraiment né du cœur de l'Afghanistan.
Là, vous étiez là dès le départ?
Yes, I was.
Pourquoi?
Because I was a mujahid during jihad time. When the Russian left Afghanistan and the mujahideen took power, after that the mujahideen were not able to control the government. And
moi j'étais déjà mujahid au moment du jihad contre l'occupant russe, et quand les Russes ont finalement fui, les mujahideen ont pris le pouvoir mais n'ont pas été capables de contrôler la situation.
Because in Afghanistan there was no security, no stability.
Pas de sécurité, pas de stabilité.
Et c'était aussi un mouvement nationaliste.
Yeah, this was national people starting from Kandahar in the people's support. This was the reason the people they stand up behind them.
Oui, et c'est pour ça que les gens nous ont soutenus quand on a commencé depuis Kandahar, c'est parce que c'était aussi un mouvement nationaliste afghan.
Vous avez réussi à prendre le pouvoir en 1996. Vous étiez sans doute en tête du mouvement.
Yeah, and this was the support of people, and they support, they encourage the Taliban to disarm the other people and to stop civil war in Afghanistan.
On avait le soutien de la population qui nous soutenait pour pouvoir désarmer les uns et les autres et arrêter la guerre civile en Afghanistan.
The Taliban succeed, the majority of Afghanistan, they disarm the people, and the people join with them, and they brought security in united to Afghanistan.
Et donc on a réussi, les talibans ont réussi, ils ont réussi à désarmer les autres milices avec le soutien de la population et apporter la sécurité, la stabilité et l'unité en Afghanistan.
Unfortunately, some people in the north starting to assist the Taliban, the partner countries they were supporting them, and they were not given chance the Taliban to bring Afghanistan.
Malheureusement, il y a un groupe de gens qui, dans le Nord, ont continué à s'opposer avec le soutien étranger et qui n'ont pas laissé les talibans de continuer à s'établir partout.
C'était il y a à peine 10 jours, l'entrée des talibans à Jalalabad, l'un des derniers verrous pour l'accès à Kaboul. Cette nuit, les talibans se sont donc emparés sans coup férir de la capitale afghane, abandonnée, semble-t-il, de ses derniers défenseurs, au terme d'une offensive éclair. Désormais, les talibans contrôlent les trois quarts du territoire afghan. Leur premier geste a été de s'emparer de l'ancien président Najibullah dans les bâtiments de l'ONU où il était réfugié depuis maintenant 4 ans. Le dernier président communiste mis en place par les soviétiques aurait été pendu à un réverbère après avoir été traîné derrière une jeep. Deuxième acte, l'imposition de la charia, la loi coranique. Les talibans, ces étudiants islamiques, sont brusquement apparus sur la scène afghane à l'automne 94. Sous leur administration, ce n'est plus que femmes voilées, rétablissement des châtiments islamiques, interdiction des jeux de hasard et de la drogue, bref, stricte application de la loi coranique.
Alors voilà un document sonore de 96, donc évidemment, Hadji Abdul Salam Zaef donne une sa version de l'histoire. Les forces qui se sont opposées, dit-il, au nord du pays, malheureusement, eh bien, c'est les forces de Massoud à l'époque, hein, c'est-à-dire l'Alliance du Nord, c'est-à-dire le Panjshir, c'est-à-dire le monde, le clan Tadjik, disons. Alors, un autre éclairage peut-être est nécessaire sur l'histoire de ces talibans, et on va demander à Olivier Roy, qui est chercheur spécialiste de ces régions, de nous donner son point de vue, son historique à lui de cette histoire talibane.
Parlez-nous des talibans, parce qu'on pensait, bon, ils ont, c'est le diable absolu, le mal absolu, le taliban, mais bon, si, ça y est, en 2001, on dit, cette figure-là a disparu. Et le voilà de retour. Qui sont ces talibans ?
Mais il faut le voir sur 20 ans, hein, parce que ce sont des gens qui évoluent, évidemment. Dans les années 80, les talibans, c'était, comme leur nom l'indique, des étudiants d'école religieuse, donc des jeunes, qui ont été tout de suite pris par la guerre, qui sont devenus moudjahidines, et qui ont été étudiants en religion, j'allais dire, à mi-temps. Donc on faisait 6 mois de guerre, 6 mois d'études, etc. Donc ils n'ont pas du tout la formation traditionnelle des lettrés afghans. Ils ont fait leurs études dans des écoles religieuses soutenues par les Saoudiens, donc un cursus qu'on appelle salafi, très fondamentaliste, très basique aussi, il faut le dire, avec des idées très étroites sur les femmes, etc. Ils sont d'un milieu tribal pashtoun, et ça je crois que c'est très important de le dire, même s'ils ne sont pas des nationalistes pashtoun, évidemment. Donc dans un milieu social qui est très conservateur, en particulier sur la question des femmes, et aussi très très indépendant d'esprit, enfin bon. Et les talibans ont créé donc des réseaux d'anciens des écoles religieuses, hein, c'est un peu comme ça on veut faire. En 94, sous la direction de Mollah charismatique Mollah Omar, et en réaction à l'anarchie dans le pays, ils ont pris le pouvoir, entre 94 et 96. Au début, les talibans n'étaient pas du tout des gens qui étaient anti-occidentaux. Les Américains ont soutenu les talibans au début. Bon, ils ne leur ont pas envoyé d'armes, ils ne leur ont pas envoyé des dollars, ça c'est faux. Hein. Mais la prise de Kaboul en 96 par les talibans a été déclarée, il y a une déclaration officielle du département d'État qui dit que c'est un pas positif. Hein.
Parce que
ça met fin à l'anarchie. C'est ce que les Américains voulaient, stabiliser l'Afghanistan sans y intervenir. Les talibans étaient soutenus par les Pakistanais et les Saoudiens qui, à l'époque, étaient vus comme des amis américains. Bon, donc pour les Américains, c'était une bonne solution. Les Américains, pour des raisons qui m'échappent parfois, n'ont jamais aimé le commandant Massoud et les gens du Nord. Et donc, pour eux, les talibans étaient un bon choix, et ça s'est très bien passé au début. Les problèmes ont commencé à cause de la politique misogyne des talibans, mais ça n'a pas allé très loin. Et la situation s'est compliquée en août 1998, quand Ben Laden a fait exploser les ambassades américaines en Afrique. Et là, il est apparu avec évidence que Ben Laden était protégé par les talibans. Donc là, ça mettait les Américains en porte-à-faux. Mais les Américains ne se sont pas du tout attaqués aux talibans. Ils ont demandé à l'ONU de décréter des sanctions pour obliger les talibans à se débarrasser de Ben Laden. Mais les sanctions ne visaient pas du tout à se débarrasser des talibans. Par contre, le soir du 11 septembre, il n'y a plus le choix. Je crois que l'administration américaine a dit aux talibans « Vous avez 24 heures pour nous livrer Ben Laden ». Mais ça, on savait que, bon, que ça ne serait pas fait. Donc là, il n'était pas possible de faire autrement. Donc c'est seulement le soir du 11 septembre que les Américains ont considéré les talibans comme des ennemis. Donc c'est relativement récent, si vous voulez. Et après, on a eu un processus de radicalisation des talibans, évidemment. Parce qu'ils se sont maintenant identifiés à Ben Laden, au lieu de se détacher de Ben Laden. Ils se sont réfugiés au Pakistan, où ils ont été soutenus, et ils sont soutenus par les partis islamiques radicaux pakistanais. Donc très nettement, aujourd'hui, on a une radicalisation du milieu taliban vers une conception plutôt à la Ben Laden.
Pas tellement rassurant ce que vous dites là.
Non, mais un petit espoir. Est-ce qu'il y a des talibans modérés ? Alors un des plus modérés, ben, c'est celui qui a passé 3 ans à Guantanamo, là, Mollah Zarif, qui était leur ambassadeur à Islamabad. Le problème, c'est comment reconnaît-on un modéré ? Comment le distingue-t-on d'un radical ? Comment le distingue-t-on d'un trafiquant de drogue, etc., etc. Et là, on trouve tout ce problème de l'incompréhension qu'ont les Américains de la région et du fait que les troupes de l'OTAN n'ont pas de véritables services de renseignement, d'officiers des affaires indigènes qui puissent comprendre, parce que c'est pas leur boulot. Ils n'ont pas été envoyés pour ça.
Alors, faut pas croire que nous sommes plus malins, nous autres, l'équipe de la Basse, j'y suis, pour savoir si devant nous, assis dans ce canapé, cet homme rond, avec cette voix fluette, douce et fluette à la fois, avec son turban noir, sa tête d'intello, et sa barbe noire, est un modéré. Bien sûr, il affirme qu'il a décroché, qu'après ses 4 années, presque 4 années, 3 ans et demi passés à Guantanamo, il a réfléchi et il préfère désormais s'occuper de sa famille et il appelle à la paix, à la réconciliation. Faut, qui, qui,
qui faut-il croire? Est-ce un modéré? Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très très important dans cette période, dans cette séquence de l'histoire de l'Afghanistan, qui à un moment, et Olivier Roy vient nous le dire, a concerné la planète tout entière et qui concerne à nouveau la planète tout entière, au moins pour la raison des narcotrafics, puisque la fabrique d'opium et d'héroïne en Afghanistan nous concerne tous, au moins pour cette raison-là, et puis ce risque, ce nouveau risque de déstabilisation de l'Afghanistan et pourquoi pas de la région tout entière. Revenons-en à ce que l'histoire a retenu comme image de ces talibans dans nos esprits aujourd'hui.
Mais quand même, l'image des talibans, enfin vous les connaissez mieux que nous, c'est toutes ces images invraisemblables d'interdiction de tout un tas de choses, de façon tyrannique, de façon absurde. L'interdiction de la musique, l'interdiction des cerfs-volants, et pendant un moment, vous aviez interdit le port des chaussettes blanches parce que le blanc était la couleur du drapeau taliban.
Something that this is propaganda against Taliban, the socks. I was wearing the black socks and the white socks. Nobody told me that you are not using.
Ça, c'est de la propagande anti-taliban. Moi, les chaussettes, j'en portais des blanches et puis aussi des noires et personne ne m'a jamais rien dit.
About the kite, yes, that's the Amr bin Maruf one night in Munkar. And they wanted to ban the kite because the kite is in Islam. When the people, they are arising to the
pour ce qui est des cerfs-volants, effectivement, il y a une interdiction des cerfs-volants qui a été faite, mais pour des raisons très claires, c'est que quand on fait du cerf-volant depuis le toit d'une maison, on peut voir ce qui se passe dans les cours des autres maisons, ce qui est interdit par l'islam, de regarder par-dessus les murs, de se voir ce qui se passe chez les autres. Et puis par ailleurs, il y avait aussi des risques, quand même, pour les enfants qui allaient faire du cerf-volant sur le toit des maisons, des risques de chute et d'accident.
About the music, and yes, the Taliban stopped the music. Because this was dispute between the Islamic scholar. Also, it was no need
pour ce qui est de la musique, effectivement, ça a été interdit, mais il y avait aussi des querelles entre les différents courants de lecture de l'islam. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la priorité à ce moment-là, ce n'était pas que les gens écoutaient la musique, ce n'était pas ce qui les intéressait le plus. Les gens, ce qu'ils voulaient, ils étaient pauvres, ils avaient besoin de manger, d'avoir la stabilité, la sécurité. La musique, ça passait après.
Quelque chose qui nous a beaucoup frappé, évidemment, c'est le sort des femmes. Ici, on a vu des images de femmes d'exécution, de public, de femmes, par exemple. C'est des images terribles pour nous.
And executed for the woman. This is in Islam. We have the principle in Islam. This is not the principle of Taliban. When the people they are killing the other people, they will be killed.
Ça, c'est une question de Taliban ou de c'est juste propre à l'islam. Quand quelqu'un tue quelqu'un, il faut qu'il soit tué sur la place publique.
This is the principle of Islam. And the Taliban call. And they should bring Islamic principle to Afghanistan.
Donc ces exécutions publiques, c'est pas quelque chose des talibans, c'est propre à l'islam. Et les talibans voulaient appliquer l'islam en Afghanistan. Pour cette femme, par exemple, qui a été exécutée sur la place publique, c'est parce qu'elle avait tué son mari. Et donc c'était la revanche, la vengeance de la famille du mari qui a été assassiné, qui avait exigé son exécution.
Today, this government, they have many prisoners in the jail. They are killer, and the court. Today they gave the punishment to them to be executed, but they are waiting because they are under pressure of the East. But this is the principle of Islam. They must do that.
Oui, c'est un des principes de l'islam et c'est ce qui doit être fait, quoi. Mais il se trouve qu'aujourd'hui les prisons du gouvernement actuel sont pleines d'assassins et qu'on devrait exécuter, mais simplement ils ne les exécutent pas encore parce qu'il y a la pression du regard de l'Occident.
Dans ce restaurant, là, c'est un moment un peu bizarre, hein, parce qu'il y a une tempête de sable et il y a un vent très très chaud qui souffle du désert. Alors c'est une ambiance très étouffante comme ça. On est en train de dîner et tu nous racontes des histoires absolument épouvantables, des histoires du temps des talibans quand tu étais plus jeune, t'as 31 ans, et tu nous racontes des choses épouvantables. Comment, par exemple, ici même où nous sommes, enfin l'emplacement,
au bord du fleuve. Un jour, les talibans ont astreint tous les gens de la ville à venir ici. Et les commerçants à fermer leurs échoppes, fermer leurs magasins, pour assister à l'exécution d'un supposé assassin. Quelqu'un qui avait commis un meurtre 10 ans auparavant. La famille de la victime ne lui avait pas accordé le pardon. Et donc, les talibans l'ont égorgé, tu nous as dit, comme un porc, comme un mouton, en public. Autre chose que tu as vu aussi, c'était l'exécution d'un voleur par les talibans qui coupait les mains à la hauteur du poignet.
Et les médecins étaient là pour les soigner après, pour faire le pansement.
I was back. The kid is behind his dad.
Moi, j'étais à l'arrière de tout le public et il y avait un petit garçon qui était à côté de son père.
So the kid can't see what's going on.
Et il voyait donc pas ce qui se passait.
Serious in watching.
Tout le monde était silencieux, tout le monde regardait.
But he can't see what's happening.
Et ce petit enfant ne pouvait pas voir ce qui se passait.
He grabs his dad from the back.
Et il tirait, je voyais, il était tiré la chemise de son père.
Dad, I can't see.
Et il disait, papa, j'arrive pas à voir ce qui se passe.
So he picks him up and sit him on his shoulder.
Et ce qu'a fait le père, c'est qu'il a pris le petit enfant et il l'a mis sur ses épaules.
And for me, that was a shock to see his dad picking him up to cut a hand.
Et moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est de voir ce père qui faisait l'effort de prendre son fils sur les épaules pour que son petit garçon puisse voir les voleurs en train de se faire couper les mains.
Le garçon qui parle s'appelle Almas. Il est très jeune, on est à Jalalabad, il a quoi, 25 ans. Et c'est la scène qui l'a frappé. Et on comprend tout à fait telles horreurs. Il faut rappeler que dans notre histoire, nous, ici, des choses comme ça se produisaient. Et puis, je suis sûr qu'il y a un auditeur qui va évoquer Huntsville, où l'on exécute aussi, on cache les exécutions. Mais souvenez-vous comment on avait pu faire décrire par un adversaire de la peine de mort à Huntsville le processus de mise à mort. Là, c'est l'exécution publique. Et je ne sais pas s'il faut créer toujours des hiérarchies dans les barbaries, mais je pense qu'il serait injuste de se limiter à l'indignation face à celle-ci uniquement, qui doit être évidemment condamnée avec les valeurs qui sont les nôtres, mais il faut bien replacer ça dans une histoire un peu plus large. On retrouvera Almas dans nos reportages, et notamment quand on ira dans les villages qui cultivent le pavot, avec ces paysans qui fabriquent de l'opium. Et pour l'instant, on est encore avec Hadji Abdul Salam Zaev, donc, je le rappelle, cet homme qui fut l'ambassadeur des talibans au Pakistan, qui a été arrêté par les États-Unis, par le gouvernement américain, qui a été, il nous le dira, torturé, longuement torturé en Afghanistan, et puis ensuite transporté à Guantanamo. Il a passé 3 ans et demi. Aujourd'hui, il affirme avoir décroché. Et il nous raconte ce que fut cette aventure, celle des talibans.
We are Muslim. We must follow the principle of Islam.
Pour les musulmans, nous devons suivre les principes de l'islam.
There is verses in the holy books. And when the people they are stealing something, they must cut his hand. That's the principle.
C'est ce qui est écrit dans le livre saint. Quand un voleur vole quelque chose, on doit lui couper sa main. C'est tout aussi simple que ça.
That's for security, for stability of the country and the people. But when the people they are looking for the punishment, the other people they should not do that.
Mais ça, c'est ça qui peut garantir la stabilité d'un pays aussi. C'est la crainte, l'effet dissuasif de voir quelqu'un qui s'est fait couper les mains parce qu'il a volé. Si on coupe une main quand on vole, les gens réfléchiront à deux fois avant de voler. Et ceux qui ont des biens se sentiront plus en sécurité.
Il y a 5 millions de musulmans en France, presque 10% de la population. Et je suis sûr qu'en écoutant ce que vous dites là,
la plupart des musulmans français sont révoltés, ne sont pas du tout d'accord avec vous, et sont pourtant d'excellents musulmans.
They are in French, in France. They are living there, and they must listen to the principle of the government and the principle of the country. But our country is different from your country because we are all Muslim here.
Les musulmans français, ils vivent dans un pays, la France, et ils doivent se plier aux règles de la France. Mais il se trouve qu'ici, en Afghanistan, nous vivons dans un pays où tout le monde est musulman.
Something I will tell you, this is not the protest on Taliban, this is the protest on Islam. We are following the rule of Islam. These things when the Taliban were doing, this is in Islam. This is the principle of Islam. And they are not created by themselves.
Les talibans n'ont rien créé. Les talibans n'ont rien inventé. Nous appliquions les principes de l'islam. Et ce n'était pas la règne des talibans, mais c'était simplement le règne de l'islam dans ce pays.
Because you are not Muslims, but we are Muslim. We have the role in Islam. That's the people they are supporting. Because during Taliban time, the majority people they are satisfied with that. That was the reason they support the Taliban.
Oui, mais votre pays n'est pas un pays musulman. Ici, c'est un pays musulman. On appliquait les principes de l'islam, et c'est pour ça que la majorité de la population était très satisfaite et soutenait le gouvernement taliban.
We are not telling you the principle. In French, because we are not interfering to your internal principle.
On vous dit pas comment il faut faire en France. Nous, on n'intervient pas dans vos affaires intérieures.
That's always that there is protest from East on Islam. They are attacking Islam.
Il y a toujours des critiques de l'islam par l'Occident, toujours en train d'attaquer l'islam.
But the Muslim Islam is our religion, also our law. This is our constitution.
Voilà, mais l'islam pour nous c'est notre loi et c'est notre constitution et c'est ce à quoi on se fixe pour mener les affaires.
Ah là, voilà les oiseaux.
Ah voilà les oiseaux.
Le marchand de l'oiseau,
c'est des pigeons, lui, Yvan. Bonjour.
Salam alaikum.
Qu'est-ce que c'est ces oiseaux? Qui est-ce qui les achète?
C'est des gens qui aiment les oiseaux, qui font voler les oiseaux et attraper l'oiseau des autres. Parce que sur les toits, les gens possèdent un pigeonnier. Alors les amateurs de pigeons, bah, ils font voler les pigeons et après, ils essayent d'attraper le pigeon du voisin.
Ah d'accord.
Celui qui est plus loin.
Et que tout ça, c'était formellement interdit à l'époque des talibans.
Autant des talibans, c'était interdit, c'est vrai?
Il
y en avait, mais on le cachait.
Ah, vous les cachez?
Personne n'avait le droit de faire voler ces pigeons.
Alors, ici, vous aviez fermé votre boutique, vous? La boutique était fermée, alors?
Oui, tout le monde était fermé. Tous les plaisirs étaient interdits. Ah, les cerfs-volants, c'était interdit. Le combat des perdrix était interdit, le combat des cerfs-volants était interdit.
Et la musique était interdite aussi.
Oui, oui.
La musique. Et il y avait des exécutions au stade aussi. Vous avez vu ça, vous?
Oui, ils pendaient les gens.
Vous avez vu ça?
Non, j'ai jamais été, mais les autres m'ont raconté.
Est-ce que c'est mieux maintenant?
Oui, bien sûr, c'est mieux qu'avant quand même.
Hop, et ils jettent.
Ouais, maintenant c'est bien.
Ils jettent une poignée de graines à ces pigeons. Alors, continuez la promenade.
Oui, la promenade dans cette partie du bazar de Kaboul qui est réservé aux oiseaux. Les Afghans, les habitants de Kaboul adorent les oiseaux et c'est tout un art, c'est toute une culture de faire chanter les oiseaux, d'attraper les pigeons du voisin, d'avoir ses pigeons et des combats de perdrix aussi. On est très, comme d'autres font des combats de coqs, là il y a des combats de perdrix et donc on évoque ce que fut ce puritanisme radical dans les façons de contrôler les peuples, les populations, les âmes, comme on voudra. Il y a la terreur, une vieille technique pour les pouvoirs, assortie si possible de délation. voilà, c'est un type de contrôle social. Chez nous, aujourd'hui, c'est la précarité. C'est une façon de contrôler une population, de dominer une population, que les choses marchent en ordre. Et là, c'était tout à la fois. C'est-à-dire que les talibans, ils avaient totalisé le système, la terreur, la délation, la précarité, le puritanisme. C'est difficile de mesurer aujourd'hui ce qu'a été la révolte. Est-ce que les Afghans se sont révoltés contre cela, à l'exception du nord du pays? C'est difficile à mesurer. Mais ce qui est évident aujourd'hui, avec ce retour des talibans, c'est que la richesse indécente des uns et des autres, notamment des expatriés à travers Kaboul qui roulent dans leur 4x4 rutilant, ces arrogants, ces infidèles, et puis toute une série de scandales, de détournements, de corruption, etc., a créé une colère et un ressentiment. C'est plus qu'une désillusion. Et chez les habitants pauvres, on l'a vu avec les émeutes du 29 mai dernier à Kaboul, un véhicule militaire américain a blessé, tué même, je crois, un passant. Et en quelques heures, les émeutes ont embrasé toute la ville, faisant officiellement une vingtaine de morts, beaucoup de blessés, et les émeutiers se sont tout de suite dirigés vers les quartiers riches, les quartiers où résident les expatriés, ceux qui œuvrent à l'aide internationale, travaillant dans les ONG, etc. Si bien qu'aujourd'hui, les talibans ont une base populaire qui manquait ou dont on doutait parfois qu'elle existât dans les talibans, disons, première version. Et ils sont de retour et ils sont organisés et ils se battent dans ce qui n'est même plus d'ailleurs une guerre de guérilla, mais qui devient véritablement une guerre de position dans certaines parties du sud du pays. On retrouve l'ex-ambassadeur donc des talibans au Pakistan, Haji Abdul Salam Saif. Dites-nous comment vous avez vécu le 11 septembre 2001.
September 11. It was a strategy, and I saw by myself in television, and we condemn that. But attack on Afghanistan, it was a mistake. I condemn also.
Le 11 septembre, moi je l'ai vu à la télévision comme beaucoup de gens, et je l'ai condamné à l'époque. Mais j'ai condamné aussi l'attaque contre l'Afghanistan qui a suivi.
Alors, sachant votre proximité avec Oussama Ben Laden, la communauté internationale, les États-Unis, vous ont demandé de livrer Ben Laden.
For what reason?
Pour quelle raison?
To who and for what?
À qui le donner et pour quoi faire?
Mais parce qu'il était l'auteur à l'origine de ces attentats.
Yes, that's okay, but it's need for proof and evidence.
Oui, d'accord, mais pour ça, il faut le prouver, il faut des preuves.
And the Americans, they were not ready to give us the evidence.
Et les Américains ne voulaient pas nous donner de preuves.
Without proof and evidence, it was not plausible to be surrendered to America.
Mais sans preuve et sans fait, c'était pas plausible, c'était pas viable de lui remettre aux États-Unis comme ça.
Quel est votre sentiment sur Ben Laden? Quel était, remettons-nous à l'époque, sur Ben Laden ou sur Al-Qaïda? Est-ce que c'est un mouvement dont vous approuvez les idées?
No, I didn't. We are not defending from Osama bin Laden.
Non, moi j'approuvais pas et je prends pas la défense d'Osama bin Laden.
We were defending from our country, from our principle. The principle in the country culture was not allowing that to some guest will be in Afghanistan to be surrendered to American without any proof, any evidence.
Nous, on était là pour défendre notre pays et nos principes. Et nos pays et notre principe ne nous autorisent pas à remettre aux Américains un invité si on n'a pas de preuve de sa culpabilité.
Donc vous avez refusé de leur livrer Ben Laden, mais à ce moment-là, vous saviez ce qui allait arriver si vous refusiez. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer, Osama Ben Laden? Il était un peu partout ici, à Jalalabad.
No, I never met with him. It was not necessary for that.
Non, non, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer parce qu'il n'y avait rien qui m'y obligeait.
I was responsible for Afghanistan, not for him.
Moi, j'étais responsable de l'Afghanistan aux yeux du monde, pas de Oussama Ben Laden.
Un autre personnage très important dans cette période, c'est le Mollah Omar. Celui-là, vous l'avez bien connu.
Yeah, I was responsible for him. I was meeting with him.
Oui, bien sûr, je parlais en son nom, j'avais des relations avec lui, des rencontres avec lui.
He was very honest person.
C'était quelqu'un de très honnête.
That was the reason the Taliban chose him.
Et c'est pour ça qu'il avait été choisi par les talibans.
And that's one thing I'm not denying, that he was not expert in the politics.
Par contre, c'est vrai que je peux pas nier que ce n'était pas un expert en politique.
He was just Islamic student.
C'était un étudiant de l'islam, un étudiant islamique.
Anyway, he was succeed because he brought security to Afghanistan.
Mais en même temps, il a réussi une partie de son travail en apportant la sécurité en Afghanistan.
Cette voix qui s'échappe d'un endroit quelque part en Afghanistan, c'est celle du Mollah Omar, le chef suprême des talibans. Au téléphone avec un journaliste de la BBC, il explique que la situation en Afghanistan est liée à une grande cause, la destruction de l'Amérique, à très brève échéance.
15 novembre 2001, BBC.
Le journaliste lui demande alors s'il a un plan stratégique pour cela. Le Mollah Omar répond : un grand travail se prépare en ce moment, et si Dieu le veut, il est en train d'être mis en œuvre. Mais c'est une tâche immense, et avec la victoire de Dieu, cela arrivera bientôt. Le Mollah Omar lui-même confirme l'actuelle déroute des talibans. Les soldats sont partis achetés par les dollars, dit-il. Cela veut dire que Dieu n'était pas à nos côtés, et c'est pour cela que nous faisons à présent un grand travail de nettoyage parmi nos troupes. Et très bientôt, vous verrez les résultats et le changement de la situation.
Ce qui se passe aujourd'hui est pire qu'à l'époque des talibans.
Because the war community directly became enemy.
Parce que la communauté internationale s'est impliquée en tant qu'ennemi ici sur le terrain afghan.
Before they were condemning Taliban, they are killers. They are killing the people. And today the war community directly they are killing Afghans.
Parce qu'à l'époque, la communauté internationale critiquait les talibans en disant ils tuent les gens. Mais maintenant, c'est la communauté internationale elle-même qui vient tuer les Afghans ici.
Mais attendez, avant de venir à l'erreur de la communauté internationale, je voudrais bien que vous fassiez un peu le bilan un peu de l'époque taliban, votre époque. Qu'est-ce que vous mettriez sur le côté positif et qu'est-ce que vous mettriez sur le côté négatif?
There were some negative points.
Bien sûr qu'il y a eu des points négatifs à l'époque taliban.
Some positives also.
Et aussi, il y a eu du bon.
The positive point, before Taliban, Afghanistan was near to be divided.
Dans les bons côtés, c'est qu'avant l'arrivée des talibans, le pays était déchiré, était au bord de l'explosion.
And they rescued Afghanistan.
Et les talibans ont sauvé l'Afghanistan.
This was very important for the future.
C'était très important pour le futur du pays.
The second thing, the Taliban was among the people and they supported by the people.
La deuxième chose, c'est que les talibans étaient des gens du peuple, au milieu du peuple et soutenus par le peuple.
And the third thing, the Taliban was very care about religious.
Et la troisième chose, c'est qu'ils étaient très soucieux de la religion.
They were respected to religious people and to religion.
Ils respectaient les religieux et la religion.
And the negative point, the Taliban were not able to satisfy the world community.
Des mauvais côtés, c'est que les talibans n'ont pas réussi à satisfaire, à se mettre d'accord avec la communauté internationale.
And the second one, they didn't start negotiations with their opposition. Because after 2, 3, 4 years to prolong the war, it is not plausible.
Et le deuxième mauvais côté, c'est qu'ils n'ont pas négocié aussi avec l'opposition ici, c'est-à-dire avec ceux du Nord. C'est-à-dire qu'après 2-3 ans de guerre, c'était pas viable de continuer le combat comme ça a été fait.
But the positive thing is very important for me.
Mais les résultats, les aspects positifs du bilan des talibans est beaucoup plus important pour moi que les aspects négatifs.
Évidemment, vous n'êtes pas obligé de partager le point de vue d'Haji Abdul Salam Zaef, ancien ambassadeur des talibans au Pakistan, surtout si vous êtes une femme afghane, par exemple, on parlera de ce qui a été, de ce qui continue d'une certaine façon d'être le génocide des femmes en Afghanistan. C'était un reportage avec Guy Ventil. Merci à Abdul Salam Zaïf, Akbar Kal, Almaz Bawar et Olivier Roy, traducteur Essan Meranguet, à lire le bouquin d'Olivier Roy, L'Islam mondialisé aux éditions du Seuil, et d'Ahmed Rachid, L'ombre des talibans aux éditions Brochet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas suivi. Vous pouvez sur ce site réécouter cette émission, aussi bien que sur le site là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Julien Dumont et Fabrice Demaz. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, montée par Raphaël Mouterde, assisté de Pascal Poscarillo et de Christophe Imbert pour le répondeur. Il attend avec impatience vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il va être 16h dans 5 secondes sur France Inter. Ah non, j'oublie la réclame. Ah bah dis donc.